RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Bang! Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 209 de Basket Time, avec aujourd'hui le début de saison de Tony Truant des Cleveland Cavaliers qui sont en 12-0. Si était un joueur des Cavs, allez c'est assez facile, Stephen Brun serait Kevin Love. Salut.
Ah, super. Salut. J'ai cru que t'allais dire George Niang.
Non, je te respecte quand même. Et puis j'essaie de trouver quelque chose qui correspond un peu au joueur que vous étiez.
Ouais, enfin,
plus joli que Kevin Love.
Peut-être un peu moins inside.
J'ai rarement fait des matchs à 25 rebonds par contre.
Moi, je me rappelle d'une saison où t'as pris pas mal de rebonds quand même. Bon, pas 25, mais je me rappelle.
C'est ce que je me suis dit, mais bon, quand même, un intérieur, shooter, belle main.
Oui.
Écoute, voilà, Kevin Love, ça prend son sens.
Oui, j'aime bien son nom de famille en plus.
Oui, c'est très poétique. Fred Weiss, s'il était un joueur de Cleveland, c'est facile.
Zidrona, c'est le Goskas.
Bah évidemment.
Bah évidemment, évidemment.
Est-ce que as joué contre lui parce qu'il boudait beaucoup la sélection?
Non.
Il venait pas. Alors il y avait l'Euro 2007 où il a failli venir. Vous aviez joué la Lituanie, mais il n'était pas là.
Il n'était pas là, effectivement. Non, j'ai pas joué contre lui, mais ça me va comme comparaison. Bon joueur.
le next, ça t'intéresse, le suivant, puisque nous sommes avec Monsieur Sacha Alix. Bonjour.
J'ai très très peur. Bonjour.
Alors j'ai hésité entre Delonte West, notamment, et J.R. Smith.
Pour l'hygiène de vie, ouais,
c'est J.R. Smith, ça va.
Finalement, j'ai choisi.
C'est un bon joueur.
Dion Waiters, drafté en 4e position en 2012. Il avait été suspendu par le Heat pour avoir critiqué son entraîneur. Je trouvais que ça marchait bien. Il avait été aussi suspendu 10 matchs après avoir fait une crise de panique dans l'avion suite à l'ingestion d'un bonbon au cannabis, alors qu'il était en déplacement avec le Heat.
Ouais,
bon, c'est plus la première partie que la deuxième.
Non, la deuxième, ça marche.
Non, tout marche pour lui, là. À part la draft numéro 4, là, c'est.
Oui.
Sinon Thomas.
Ah, on peut en voir une pépite en lui, certains, tu vois,
non,
prospect.
Non,
je pense que ça reste une des plus grosses déceptions des Cavs quand même. J'ai peur.
Ah, de devant Anthony Bennett.
Bah non.
Dion, il a un peu donné quand même.
Oui.
Il a joué au basket.
Il s'est beaucoup embrouillé aussi, je pense.
Et ça, écoute, c'est pas le seul. Voilà pour la présentation. Les Cleveland Cavaliers sont le tube de l'automne. 12-0 pour les Cavs après leur victoire dans la nuit de lundi à mardi, 119-113 face aux Bulls. 8 équipes ont réussi dans l'histoire ce début. 2 ont même terminé championne. Messieurs, on va donc s'intéresser à ce que les Cavs peuvent-ils aller au bout. Et oui, c'est encore que le début de saison, mais est-ce que cette équipe vous donne de l'espoir pour la suite à la conférence Est, dans cette conférence Est. Talk 2 sur le backcourt, Darius Garland, Donovan Mitchell, où le situez-vous dans la ligue? Là, évidemment, Kyrie Luka, on place évidemment en numéro 1 aisément, mais est-ce que voilà, il y a un débat ensuite? La partie historique, les meilleurs départs de l'histoire. Vous allez nous raconter plusieurs bons départs et savoir ce que ça a donné. Généralement, vous finissez toujours en play-off. Hein. Il y a quand même peu d'équipes qui ne finissent pas en play-off en démarrant 12-0 la saison. Et le quiz assez orienté Cleveland. Voilà,
ah ouais,
et les bons
bizarre.
Débuts de saison. Voilà. Écoute, je suis heureux. Non, j'aurais pu trouver autre chose, on sait pas.
Ça, par contre, t'as mis ton t-shirt de LeBron James, The King, t'as pas honte?
Exactement. Bah quoi? En hommage?
En hommage à quoi?
Bah Cleveland.
Ah, toutes les finales qu'il a perdu.
Il en a gagné quand même. C'est son plus beau titre, hein.
Oui,
2016.
Bravo.
C'est vrai.
Écoute, faut le faire, hein. T'as gagné à Cleveland, toi?
Non, mais j'ai pas joué, donc je peux pas gagner.
Bah, Kevin Love, qui?
Kevin Love, oui.
Allez, Basket Time, épisode 209, c'est parti.
The Cleveland Cavaliers look unstoppable.
Burke feed the post. Here's a good look. Mobley's underneath. He puts it up and in and draws the foul as Evan Mobley muscles his way. Work on Wilson. Fire a long distance three. Donovan Mitchell. Nearly a steal, and it is. Caris LeVert off to the races. Showtime.
This team is currently undefeated after the first 11 games of the season.
Garland, take over the game again. Again, Darius, a hesitation move. Find Mobley! Hasn't got forced inside the arc. Yes. Oh, Mobley with the rejection!
Cleveland Cavaliers move to 12-0.
Tough loss for the Bulls. Tough loss. Man, they had him.
Les Cavs peuvent-ils aller au bout? Sacha, tu vas nous résumer le début de saison. Parfait, parce qu'on peut pas faire mieux qu'un 12-0 tout simplement.
Bah oui, tout à fait. J'ai aucune défaite pour les Cleveland Cavaliers, qui a misé sur la continuité dans la construction de son effectif et ça paye. Le gros renouveau pour cette équipe, c'est le changement de coach avec Kenny Atkinson et Vincent Collet qui rejoint le staff également. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, le backcourt s'éclate. On a un Donovan Mitchell qui shoot un petit peu moins et on a l'équipe qui est tout simplement la plus efficace de la ligue en attaque, tout en gardant gardant une grosse identité défensive puisqu'elle fait également partie des meilleures défenses. C'est une équipe qui joue juste collective, qui est construite autour de profils qui sont jeunes, athlétiques et assez complets, capables aussi bien de créer que de rentrer dans le jeu vraiment d'application du système et de faire ce qu'il faut. Qui est assez symptomatique, je trouve, de cette équipe, c'est le spacing, dans le sens où tous les joueurs sont disposés de manière à être trouvés aisément par tout le monde. Et c'est une de leurs très, très, très grosses forces. C'est d'ailleurs une équipe qui aura des points communs avec l'équipe qui a réalisé le meilleur démarrage d'histoire. C'était les Warriors de 2015-2016. On en reparlera tout à l'heure. Et bah, franchement, bravo à eux. Maintenant, ils ont aussi un calendrier qui, sur le papier, était un des plus faciles sur le début de saison et qui, là, va continuer à être assez facile sur les prochains matchs. Donc, ils peuvent faire une super série encore. Faut juste voir si ça tient, parce que c'est toujours un petit peu le problème des Cavaliers, c'est que c'est toujours une belle équipe qui joue très très bien, mais il y a un moment où ça pêche. Bon, l'année dernière c'était en playoff contre Boston, mais bon, Boston finit champion.
C'est souvent sur les blessures aussi hein, qu'il y a des problèmes. Ils ont souvent des blessures, ils ont souvent des mecs qui sont absents au moment un peu important et ça change la donne forcément.
Justement, j'allais te chercher là-dessus, Stephen. C'est vrai que l'année dernière, on peut dire qu'ils ont augmenté le niveau de leur coach, même si JB Bickerstaff n'est pas le pire coach de la ligue, mais on peut juger que Kenny Atkinson, c'est un cran au-dessus. Et Fred le disait, c'est vrai que l'année dernière, certes, il y a ce parcours en play-off, mais ils avaient énormément de blessés. Quand ils viennent jouer à Paris, il n'y a pas Darius Garland, par exemple.
Non, il n'y a pas Darius Garland. On a vu à Paris, Donovan Mitchell est un joueur de qualité supérieure, plus. et on avait pu voir que tous ces role-players qui font le boulot cette année étaient des joueurs solides. On avait pu le voir à Paris. Maintenant, JB Bickerstaff n'a pas fait du mauvais travail à Cleveland. Il y avait 58 victoires il y a 2 ans. Il avait 48 la saison dernière. C'est juste en play-off où ça s'écroule. Donovan Mitchell s'était écroulé lors de la première participation en play-off. Il avait été cata quand il perd contre les Knicks, il me semble. La saison dernière, ils battent Orlando et ils perdent contre Boston. Kenny Atkinson, c'est un coach. Et quand je vois ce que fait Darius Garland qui n'était pas dans les petits papiers et peut-être qu'il n'y sera toujours pas parce que c'est peut-être la seule monnaie d'échange qu'ils ont envie de proposer pour améliorer cette équipe, même s'il n'y a pas besoin de l'améliorer. Kenny Atkinson avait, je vous le rappelle, à Brooklyn emmené D'Angelo Russell All-Star. Quand il était à Brooklyn, Kenny Atkinson a fait du très bon travail de reconstruction où il avait perdu toutes les stars et il avait des garçons qui étaient Jarrett Allen était à Brooklyn, c'était un jeune Jarrett Allen, mais il avait commencé à progresser. Kenny Atkinson a cette capacité, il a été meneur de jeu aussi, donc il y a forcément une relation privilégiée avec les points de garde, mais il avait fait éclore des garçons. D'Angelo Russell, Spencer Dinwiddie à Brooklyn avait été très bon aussi. Et là, on sent qu'avec Darius Garland, il y a quelque chose qui se passe. Où Darius Garland fait une saison. On rappelle que Darius Garland était All-Star. Hein, à un moment donné, l'année dernière, il a été cata. Et là, il retrouve. Donc, Kenny Atkinson a cette aura parce qu'il y a déjà une crédibilité sur le banc NBA avec ce qu'il a fait à Brooklyn en retournant en playoff avec une équipe sans star. Et puis, Kenny Atkinson. Il a du caractère. Bon. Il a du caractère quand tu vois ses conférences de presse. C'est une espèce de petit caniche qui aboie tout le temps. Mais il fait du bon travail. Mais Sacha l'a dit, mec, l'ossature de cette équipe, 0 nouveau joueur dans le roster. Ça veut dire que c'est Kenny, il arrive, il est sur du velours. En fait, il a pas gros. Il a à mettre la patte Kenny Atkinson.
Mais même lui, il a dit, on va pas changer grand chose au départ. On va vraiment travailler dans cette continuité qui est super importante. En fait, ils ont de l'avance sur leur début de saison. C'est normal. Ils ont pas changé de joueur.
Et donc, il y a pas d'adaptation. Max Truss qui est blessé à la cheville et qui doit revenir.
Oui, mais qui est presque le cinquième, même si bon joueur.
Starter l'année dernière. Hein,
Max oui, ouais. Mais je veux dire, c'est presque la cinquième roue du carrosse. Pardonnez-moi ça, parce que quand tu vois ce quatuor, qui est peut-être un des meilleurs quatuors de la NBA, parce qu'on, et on parlera dans la deuxième partie de Garland Mitchell, mais Mobley Allen, c'est pas loin d'être le meilleur duo d'intérieur de la ligue, ou pas loin, hein.
Bah sur ce début de saison, Mobley m'impressionne un petit peu. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit à ce niveau de performance. Il, tout le monde court. En fait, moi, ce que j'aime dans cette équipe, c'est que ça défend, effectivement. Sacha a raison. Et la preuve en est, contre Chicago perd 20 ballons. Mais sur ces 20 ballons, il y a 14 ballons volés par cette équipe des Cavs. Et après, ballon volé, ça court, ça va dans tous les sens. Donc ça veut dire que tu peux être maladroit, mais tu vas avoir des paniers faciles, tu vas avoir des gens qui sont contents de marquer des points faciles, ça va donner confiance à tout le monde, ça va donner confiance à la défense, et c'est ce que j'aime dans cette équipe. Mais effectivement, il faut se rendre compte que Strauss n'est pas là, mais il y a des role-players qui sont là, qui rendent bien, il y a Okoro qui peut défendre, qui peut lui aussi mettre de la pression, et on parlait des 4 fantastiques, là c'est hyper intéressant de voir ces 4 évoluer ensemble.
Bah c'est ça, et je trouve il y a des joueurs qui sont symboliques un peu de cette philosophie Cleveland, que on pourrait pourrait qualifier d'OKC un petit peu à l'est avec cette continuité, ces jeunes joueurs, cette agressivité, grosse défense, gros collectif. Caris LeVert, moi je trouve que c'est, ça correspond aussi bien. C'est celui qui peut toujours être là quand on a besoin. Okoro qui peut starter, qui est un spécialiste défensif. C'était un haut pick de draft dans lequel tu peux avoir beaucoup d'attentes. Mais non, il est utilisé parfaitement. L'évolution de Jarrett Allen qui de base était vraiment un pur défenseur et qui maintenant met des points et un très très fort pourcentage. Mobley qui prend confiance. Et Atkinson qui dit clairement à Garland de plus shooter. Ce qui fait que Donovan Mitchell shoot un peu moins, à moins de minutes aussi, mais c'est beaucoup plus juste. C'est une de ces saisons, enfin début de saison les plus efficaces.
Alors, le ballon est mieux réparti, je suis d'accord avec toi.
C'est, franchement, et, quand tu regardes le match qu'ils font face à Golden State, qui est je crois deuxième ou troisième meilleure attaque de la Ligue.
C'est leur match référence depuis début de saison.
Il y a un monde entre les deux en attaque, je trouve. Et en fait, ce que Cleveland est capable de faire en attaque derrière, ils peuvent totalement anéantir le jeu de Golden State en attaque. Enfin, il leur pose beaucoup plus de problèmes parce que en fait, c'est une équipe qui est ultra complète.
Ouais, et les Warriors qui étaient, je crois, à 5-0 à l'extérieur, ils avaient tout gagné à l'extérieur à ce moment-là.
Une équipe complète, une équipe qui est très bien hiérarchisée. Ce qui est important dans une équipe, c'est que les role-players savent pourquoi ils sont là. Et il n'y a pas un mec qui essaye de faire du dépassement de fonction. Le Dean Wade, le mec du Seigneur des Anneaux, la Meryl.
Ty Jerome, incroyable.
Il met 12 points hier, Nyang.
Et qui te fait des 5-6 passes en 20 minutes.
Ces mecs-là, ils savent pourquoi ils sont là. Caris LeVert, tu sais que quand il sort du banc, il faut qu'il mette des puntos. Voilà, lui, il est là pour mettre des points, pour être joker offensif.
Et
il a cette capacité-là. Donovan Mitchell, depuis sa saison rookie, sa plus petite moyenne de points en carrière, mais parce qu'il shoote moins aussi et parce que la marque est mieux répartie et que Mobley prend des responsabilités offensives magnifiques. Les pourcentages de réussite sont hallucinants de cette équipe-là. Ils sont derniers au rebond offensif. Pourquoi
53
bah, parce pas de rebond, parce que tu mettais les filoches. Mais
la meilleure attaque.
La façon dont ils construisent les tirs sont amenés proprement, c'est-à-dire que le mec qui est en bout de chaîne, il a un tir propre parce qu'il y a une construction avant, c'est pour ça que t'as des hauts pourcentages aussi.
Non mais ce qui est intéressant, c'est surtout, on en parlait tout à l'heure de Donovan Mitchell, c'est un mec qui est égoïste normalement. Là, il partage le ballon circule bien. En fait, il y a pas, on dirait qu'il y a pas d'ego dans cette équipe, grâce à Atkinson qui lui a dû mettre son poing sur la table parce que c'est le seul truc qu'il avait à faire réellement. C'est-à-dire qu'il a annihilé tous les égos, le ballon circule bien et tout le monde est impacté et appliqué et intéressé par l'attaque.
Et c'était clairement, je pense, leur gros défaut, c'est que tu avais ce côté en play-off, Donovan Mitchell doit être le héros, jouer un contre-temps des autres, et là, ça semble ne plus exister, et Garland vraiment...
Attention dans les moments difficiles, oui, c'est ce qui sera le révélateur.
Alors, évidemment, mais jusqu'où peuvent aller ces cases? Alors, peut-être un chouïa prématuré pour parler de titre, mais la finale de conférence Est, Stephen, surtout avec ce bon début de saison, ça veut dire que tu croiseras peut-être pas forcément Boston, oui, si ça fait 1-2.
Ouais, après, ils ont la chance de jouer dans une conférence qui est à mon sens faible, très faible, parce que je ne sais pas si vous avez vu
la conférence.
À l'Ouest, tu as déjà 12 équipes qui ont un bilan au moins à 50%. Mais à l'Est, on a 2.
Je ne sais pas si tu as vu San Antonio, tout le monde dit ils sont à 5-6. Brooklyn à 5-6, je crois qu'ils sont 5e.
Oui.
C'est pas exactement pareil.
San Antonio, ils sont quasiment dans les bas-fonds de l'NBA en ayant gagné 5 matchs. Donc la conférence Est souffre la comparaison par rapport à la conférence Ouest. Le début de calendrier, il est très facile pour Cleveland. Je suis d'accord avec toi, en NBA, il y a des matchs supposés faciles où tu te fais attraper. Eux, ils ont été sérieux. Maintenant, plus dur commence, puisque là, il y a encore deux, trois matchs faciles, je crois, il y a Chicago et Charlotte, et il y a Boston qui arrive le 19 novembre contre Boston. Là va être le vrai test. Maintenant, pour moi, ils sont encore en dessous des Celtics de par l'expérience, de par le vécu. Boston est champion en titre, ils font un très bon début de saison, Porzingis n'est pas encore là. Je trouve qu'il y a plus de choses en magasin du côté des Celtics que du côté de Cleveland pour le moment.
Alors, je suis complètement d'accord. Pour moi, ils sont top 2, top 3 à l'Est, sans aucun problème. Et ça, je le dis depuis le début. Je suis d'accord que Boston est au-dessus. Alors, à l'instant T, je suis pas certain. Parce que je trouve que Boston balbutie parfois, a besoin d'une mi-temps pour se mettre dans le match.
Comme les Bucks, on a vu.
Par exemple. Et tu dis que tu prends 69 points du côté de Boston sur la première mi-temps. C'est compliqué quand même, si tu fais ça contre Cleveland. Mais au complet, dans des matchs couperés où tu joues, tu dois gagner 4 matchs contre Boston, je vois pas comment Cleveland pourrait s'imposer.
Après, je disais la division parce qu'ils ont notamment les Pistons, ils ont les Bucks qui Cleveland a beaucoup battu parce que tu joues plus ta division, mais c'est vrai que le niveau global de la conférence...
Oui, c'est le niveau global.
Tu joues plus de matchs dans une conférence qui est plus faible, t'as plus de chances de gagner des matchs.
Exactement.
Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'ils ont mis beaucoup de doudounes sur le début de saison, ce qui fait que Donovan Mitchell joue 31 minutes seulement. C'est le plus gros temps de jeu de Cleveland, 31 minutes, ça veut dire que si on se projette un peu plus loin, c'est bien d'avoir un peu de fraîcheur, parce qu'il y a des mecs qui jouent 37, 38, 39, 40 minutes, donc les minutes bien réparties, et de reposer les stars, c'est important.
Puis peut-être déjà dès le in-season tournament, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais le premier match va arriver là, le 15, vendredi, ils vont jouer les Bulls, ouais, on sait que sur cette compétition, ils arrivent lancés un petit peu.
C'est peut-être le titre qu'il leur faut, à défaut du titre final, parce que effectivement, je pense que Boston a ce vécu et cette maturité qui va faire la différence dans les moments difficiles, notamment en play-off, surtout s'ils se croisent avant la finale de conf. Mais comme les Lakers l'ont fait et ont pris un titre en cours de saison, typiquement avec ce départ-là, Cleveland doit viser au moins ce titre-là.
Messieurs, on passe à la suite. Basket Time, épisode 209, consacré aux Cleveland Cavaliers. Mitchell, that's their first three. Mitchell, tough turnaround. He is so smooth.
With Mitchell and Garland, they have two elite playmakers who can break down the defense at a moment's notice, as well as, of course, score and pass at an elite level.
Mitchell with Dosunmu on him. Ayo wants to be in these closing lineups. Here's Mobley. Finds LeVert. That's a big three.
It's a brilliant, dazzling move by Darius Garland that reestablishes a three-point Cavalier lead.
At the back rim, rebounded by Mitchell. He pulls up over Williams and connects. A hot start for Donovan Mitchell.
Darius Garland is having his most efficient season by far.
Garland driving up. And all to put him up six.
Quelle place pour le backcourt Darius Garland, Donovan Mitchell dans cette hiérarchie de la NBA? Évidemment, si je regarde Stephen, il va me dire et Kyrie et Luka.
Non, mais c'est une autre conversation, ça.
Voilà.
c'est pas dans le débat.
Mais dans une autre conversation, la deuxième, tu sais, celle peut-être de pas de, de plat de repas, plat de résistance.
On pourrait dire de la conférence Est.
Non, mais voilà, au niveau de la complémentarité, de ce qui dégage. Comment vous les voyez? Il y a, évidemment, on va parler de Boston parce que on pense à Derrick White, Jrue Holiday, qui sert peut-être en apport statistique si on prend purement les statistiques.
Derrick White, Jalen Brown.
Tu mets plus Jalen Brown sur le.
Moi, oui. Je mets les deux. Hein. Moi, les deux fonctionnent pour moi.
Moi, j'aurais dit Jrue et
White, Brown. Holiday,
White Holiday. Ouais. Ok. Okay.
Parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à avec Porzingis, après Jalen Brown en 3 et Tatum un peu sur le poste 4 aussi des fois. Hein.
Si tu veux, moi,
non mais vas-y.
Je sais pas. Pour moi, Derrick White est un joueur supérieur à Darius Garland à mon sens. Donc déjà, il fait la bascule de l'autre côté. Après que tu mettes Jrue Holiday ou que tu mettes Jalen Brown, si tu mets Jalen Brown, il y a pas photo sur le backcourt. Après, je sais pas. Vous avez qui comme backcourt à proposer?
Moi, j'avais proposé. C'était celui-là.
Moi. Non, mais après.
Moi, j'ai un, après on, parce qu'on les a très peu vus jouer ensemble, mais c'est un backcourt pour les années à venir. Jamoran, Desmond Bane, par exemple.
Ouais, tu peux le citer, même si Desmond Bane est blessé. Actuellement,
ah, honnêtement, c'est pas un fantasme ce backcourt là.
Parce que Memphis, c'est peut-être un fantasme
aussi. C'est peut-être un fantasme, mais effectivement, sur le papier, les deux joueurs sont incroyables. Ils peuvent être complémentaires. C'est spectaculaire. Ça peut jeter à 3 points. Ça a tout. Sauf que tu les as souvent vus jouer ensemble.
Et oui.
Enfin, ça fait longtemps, en tous les cas, qu'on les a pas vus jouer ensemble. Ouais.
Est-ce que
Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, ça marche?
C'est ce que je me demandais aussi.
Jalen Williams, c'est pas quel joueur. En fait, Jalen Williams, il joue tous les postes.
Surtout en ce moment, avec
la question. Il a joué pivot, là.
Oui. Après, il y a Lou Dort, hein.
Normalement, c'est un arrière.
Oui, bien sûr.
Mais tiens, explique-nous pourquoi, je suis un peu mon innocent, Derrick White, c'est supérieur à Darius Garland.
Pourquoi c'est supérieur à Darius Garland dans sa perception?
Il y a l'aspect défensif déjà.
Alors déjà défensivement, c'est même si Darius Garland n'est pas une pipe, hein, défensivement. Lucas est une pipe défensivement, mais pas Darius Garland. Derrick White dans la façon dont il est capable d'impacter les matchs. En fait, il a cette faculté à parfois sortir du banc parce que dans sa carrière, il est sorti du banc. Derrick White, il a été performant. Ses prises d'initiative, je trouve qu'il y a tout est propre chez Derrick White. Chez Darius Garland, il peut y avoir un peu de déchets, il peut y avoir des décisions qui sont encore dues éventuellement à sa jeunesse entre guillemets. C'est encore un jeune joueur, il a 24 ans et je trouve que Derrick White est plus près du texte et plus
on sort le côté Spurs
Boston, il y a une éducation basket qui me paraît supérieure à Darius Garland. Maintenant, Darius Garland est capable, même si Derrick White a fait quelques cartons, il a mis 39, hein, Darius Garland. Je trouve que Darius Garland sur un coup de chaud en soirée est capable de monter un peu plus loin en scoring.
Mais justement, que White n'est pas plus régulier, oui, il a cette régularité. Alors
c'est plus stable. Garland que White, ouais, c'est parfait exécutant sur tout en fait. Il ferait jamais stable, un.
Puis White ne démènera jamais la place de numéro 1. Il n'y aura jamais un côté égo.
Non, oui, aussi,
ouais. On n'a pas l'impression en tout cas.
Alors que Garland peut. Voilà, aussi.
Après, Derrick White, c'est Tim Hussein. Garland, c'est pas Tim Hussein.
Même ça change beaucoup de choses, ah, oui. Je pense, bien sûr.
Ça, mais je pense ça, pas ça que
dire,
tu changes.
Ça veut dire que dans la hiérarchie, que t'as dans la ligue parmi les meilleurs joueurs au monde, Derek White il y est, même si c'est dans
une. Jason Tatum aussi, Team USA.
Oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal.
Ouais, d'ailleurs, il a été très bon. C'est là que j'ai trouvé le meilleur, Jason Tatum.
Non, mais Garland, il paye son côté d'Antsy. C'est-à-dire qu'il fait une saison qui est assez fantomatique la saison dernière, beaucoup de reproches. Donc, si vraiment il avait été constant comme Derek White, il n'y aurait pas forcément de débat. Et même Garland, on serait souvent parmi les top meneurs NBA. Mais bon, là, tu ne peux pas lui dire parce qu'il a trop de trous.
Mais j'ai l'impression, à vous entendre, que ce backcourt Garland-Mitchell, même si vos critiques, et là je mets quand même des guillemets, ou vos réserves plutôt, vont sur Darius Garland et... Moi, j'ai l'impression, en vous écoutant, vous me dites, c'est peut-être un peu trop juste pour aller jusqu'au trophée et au titre.
Bah, c'est un peu ça.
Ils pètent en play-off à chaque fois, en fait. Le truc, c'est que c'est un peu ça.
Ils ont besoin de nous prouver le contraire. Ils ont besoin de prouver, encore une fois, dans les moments difficiles, ils ont besoin de nous prouver que, ils sont là, qu'ils sont présents. Et Garland, on l'a dit, il n'est pas régulier. Donc, si tu compares avec un mec comme White, qui est un mec ultra régulier, qui va te faire toujours le même taf, qui est défensivement, on va être un monstre, qui va mettre les paniers qu'il faut, évidemment, il est en dessous.
Il n'y a pas de catalyseur dans cette équipe. Il n'y a pas ce vieux qui met des coups de pression. Et tu le vois en play-off parce que quand on se cherche, c'est Donovan Mitchell qui répond. Et parfois, ça ressemble à n'importe quoi. Donc, c'est aussi ça. La limite de ce backcourt-là et là où ils doivent progresser, c'est que déjà, je pense être poussé au match 7 en play-off l'année dernière face à Orlando. Je trouve que c'est anormal vu la qualité de Cleveland en fait en play-off. C'est anormal normalement par rapport à ce Mitchell.
Face à une équipe jeune, plus qu'Orlando qui n'a aucune expérience, oui.
Tu vois, ils sont censés être un peu les grands frères.
C'est clairement sur les câbles et pas sur Orlando qui justement n'avait rien à perdre en fait dans cette confrontation.
Ouais, mais...
Donc c'est plus simple quand tu joues libéré et que tu as du talent, parce que quand concrètement Orlando il le prouve, a du talent. Bah c'est difficile parfois.
Je suis d'accord, mais quand t'as été en progression, en fait, comme l'a dit Steve, on est l'ère Bickerstaff, elle commence très très bien dès que Mitchell arrive, enfin, l'équipe elle est en progression, etc. Tu t'attendais à ce que la saison d'après ce soit encore mieux et on corrige des défauts. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Franchement, c'était exactement la même chose.
Après, Darius Garland, il faut aussi lui donner un peu de crédit sur ce qu'il est en train de faire cette saison. Certes, c'est que 12 matchs. Il y a une progression énorme aussi sur la gestion du tempo, sur les prises de décision. À 3 points, il met dedans comme un cochon. Il est
presque à 46%
de 3 points. C'est monumental. Il est à 46% de 3 points avec un volume.
Et il perd moins de ballons que l'année dernière en plus.
Il a progressé. C'est mettre à son crédit, mettre au crédit de Kenny Atkinson aussi. Maintenant, voir si ils estiment qu'ils sont capables d'aller en finale NBA, en finale de conf avec cette équipe-là. Maintenant, quand tu as deux gardes très forts et deux big men très forts, qui sont sécurisés pour 2028 parce que tout le monde a quasiment prolongé, donc ça veut dire qu'il y a un projet à moyen et long terme, donc voilà, et ça veut dire que si ça va pas, t'as aussi une monnaie d'échange avec des forts joueurs, c'est-à-dire que Mobley ne bougera pas, Jarrett Allen, bon il y a deux joueurs
à 20 millions la saison, il va pas bouger avant son ex...
Oui.
Voilà, c'est bien. Donc, c'est quand même un des meilleurs rapports qualité-prix de la Ligue.
Le seul des quatre qui est susceptible de bouger, c'est Darius Garland, parce que Donovan Mitchell fait partie des franchise players de la Ligue. Donc, mais laissons-lui la chance à Darius Garland. Il a fait une saison star.
Vu ce qu'il est en train de faire, moi, je bouge pas.
On parlait des backcourts. Devin Booker, Bradley Beal, ça vous plaît pas, non?
Non.
Si, moi,
alors, faut Bradley Beal joue.
Ouais. j'y ai pensé à ce.
Non, moi je pense à Trae Young, Zach Risacher, mais c'est pas le bilan qui parle.
Question philosophique, qu'est-ce qu'un backcourt ? Jones est arrivé à Phoenix, est-ce que tu penses que c'est juste ton 1 et ton 2 ? Comment définir un backcourt ?
Tyrese Maxey, Paul George, ça existe sinon ?
Paul George, il joue quel poste ?
Il joue 3.
Ouais.
Non, mais il y a tellement d'équipes aujourd'hui qui, sur le backcourt, mettent un peu tout et n'importe quoi. C'est pas facile.
Ça bouge tellement maintenant. Je sais pas si ça veut dire quelque chose encore.
Non, il y a plus
vraiment de poste de jeu en fait.
Bah, voilà, ouais. C'est ça.
Mais après, Cleveland, ils ont cette conception backcourt à l'ancienne, entre guillemets, là où les autres équipes peuvent dénoter. Là, pour le coup, c'est un vrai backcourt, comme peut l'être Luka Kyrie. En fait, si tu regardes vraiment toutes les autres équipes NBA, t'en as de moins en moins des backcourts comme ça. Un autre, ce serait Fred Van Vliet.
C'est presque les joueurs. Quels joueurs ont les balles?
Parce que les backcourts, ça veut dire c'est des mecs qui sont capables de remonter la balle, de jouer des pick and roll et qui sont la
création. Jouer.
Donc t'as énormément de joueurs NBA qui sont capables de faire ce.
Donc tu veux dire Basol et Wemby, des mecs qui peuvent monter le ballon.
Ouais. En théorie. Exactement. Hier, je vous rappelle.
Jokic, pas le ballon.
Je vous rappelle OKC hier, ils ont battu les Pels, il me semble, non?
Non, OKC, ils ont battu. Attends,
Clippers, non?
Ils ont battu les Clippers. Le plus grand joueur sur le stade, le 5 de départ, c'est Shai Gilgeous-Alexander, parce qu'ils ont pris tout le monde.
Donc tu vois. Il y a pas Chad, il y a pas Arshenstein.
Mais je te dis, j'ai regardé l'application NBA. Center, Jalen Williams.
Ouais.
Écoute, mais ça marche.
Bah ça marche, oui, sur le court terme, je pense que ça peut marcher.
Oui, en playoff,
c'est que... Il faut obligé de compenser un peu...
Il faut que Tonto Hartenstein revienne vite, ou sinon, il faut aller récupérer un mec. Hein, ouais. Parce que Hartenstein, c'est dans 3 semaines, son retour. 3 semaines, il peut se passer beaucoup de choses.
Et Chet,
Holmgren, on ne sait pas trop non plus. Wow. Hein, c'est...
Écoute, c'est le... l'eau des blessures des saisons. Oui. Mais Chet, c'est presque 2 mois, hein, on annonce.
C'est 8 à 10 semaines, avant d'être réévalué.
Non, là, de toute façon, tout le monde se blesse.
Ils ont perdu gros, OK, si.
Oui.
Ils ont perdu gros. Parce que Chet faisait une saison All-Star.
Ouais, bon. Mais c'est surtout qu'en plus, lui, il pouvait te protéger, certes, oui. Dire que ça te mettait beaucoup de pression sur le ballon.
Ça n'a pas dérangé Shea hier, qui a mis 45, je crois.
Ouais. Offensivement. Oui. Mais défensivement, Shea, il vole 5 ballons, en plus. Hein.
Et justement, rapidement pour conclure, où vous situez Garland Mitchell? Les bons bacs courtes, pas les top-top?
Ouais.
C'est le tiers 2.
Vous mettez top-top alors? Non, mais quand je dis top-top.
Enfin, il y a Lucas Kairi, top 1.
Ouais, c'est ça.
Ils font partie du deuxième chapeau.
Donc, deuxième chapeau.
Deuxième chapeau, oui.
Deuxième chapeau.
Non, parce que t'es moyen.
Top-top, c'est chapeau 1. Non, quand je dis top-top, c'est chapeau 1.
En haut du deuxième chapeau, parce que c'est pas non plus.
Oui, en haut du deuxième chapeau.
C'est pas des All-Stars accomplis avec des gros.
Quand t'as 12-0 et que t'es les deux leaders de ton équipe, tu mérites d'avoir un joli chapeau de magicien quand même.
Merci pour la précision. Et on s'attaque justement, messieurs, pour la partie historique au meilleur départ de l'histoire de franchise en NBA. Alors évidemment, le grand record, c'est pas une question du quiz, mais il est facile.
C'est Golden State.
Combien ?
24.
24.
24.
Effectivement, bien joué.
J'ai pas terminé,
bien suivi de la part
20.
De... bien joué de la part de Stephen. Bah justement, c'est sous le choix de Sacha. Ce départ en 24-0.
Sacha Obradovic,
effectivement.
Sacha
Cohn.
Non, mais en fait, quand je me suis remémoré cette équipe-là, alors déjà, il faut se rappeler que dans la liste des équipes qui ont fait des départs parfaits en NBA, il y a les trois quarts des équipes, c'est les années 90 ou avant, c'est un peu compliqué. Donc j'ai pris l'équipe moderne parce qu'au moins, je savais de quoi je parlais un petit peu, même si pas tout le temps.
Ouais, désolé, pardon.
C'est le deuxième meilleur départ depuis 20 ans, en fait, Cleveland, si tu rajoutes les Warriors, justement.
Bah, c'est incroyable parce qu'on pourrait avoir le raccourci de penser, ouais, les Warriors, départ 24 victoires, ça doit être quand il y a KD. Ben pas du tout en fait, c'était juste l'explosion vraiment de la franchise des Golden State Warriors, bien emmenée justement par Steve Kerr. On rappelle qui était là, bon,
un sacré bac court, hein.
Steph Curry, Clay Thompson. Je pense qu'en termes d'en shoot dans l'histoire, ça doit être pas trop mal normalement. Et puis après, t'as tout ce qui est Harrison Barnes, André Iguodala, Draymond Green, Andrew Bogut qui est le starter à l'époque, et on a l'équipe qui a influencé le basket moderne. Comme je dis, beaucoup d'écrans sans ballon, Andrew Bogut qui est un pivot qui accepte de faire que des tâches de l'ombre, des écrans en mouvement aussi quand il le faut, et une équipe qui est complètement injouable parce que ce soit offensivement ou défensivement, ils ont tout, le collectif il est bien huilé, et c'est une équipe qui a failli faire tout le début de saison jusqu'à la fin d'année 2015 invaincu. Malheureusement, ils s'écroulent en décembre et c'est dommage, et derrière ils finiront même pas champions, donc vraiment la saison.
Bon, ça s'est pas joué à grand chose. Hein.
c'est Luke Walton qui est sur le banc, je crois, au début.
Oui, il y a des problèmes de dos, Steve Kerr, je crois.
Et pour le coup, moi ce que je retiens de cette équipe, c'est aussi le banc. Quand je me remémore les noms qu'il y a sur le banc, c'est quand même assez ouf, parce que je me rappelle Yann Clark, je sais pas si vous l'avez en tête, ouais. Mais qui part après à Cleveland, oui. Qui pour le coup fait des stats qu'on voit rarement en fait, qui explose de nulle part. Il y avait cette utilisation d'Harrison Barnes qui était assez parfait, Livingston incroyable en sortie de banc, qui marquait que à mi-distance, mais on a l'impression qu'il s'amusait. Barbossa qui mettait le jus et pas mal de défense également en sortie de banc. Il y avait Brandon Rush aussi pour shooter.
Oui. J'étais toujours pressé lui.
Il y avait Varé Jao, il y avait le petit-fils McAdoo, je crois. Ouais. Et non, franchement, cette équipe-là, elle n'a pas de défaut. Moi, à l'époque, je jouais NBA 2K, on prenait tous cette équipe-là, on faisait que des Golden State contre Golden State, parce que de toute façon, tu ne pouvais pas t'asseoir à la table de cette équipe.
Qui finit à 73 victoires. Et tu sais, là, je regarde leur saison et c'est vrai que je me rappelle, je me dis, qu'est-ce qui est finalement le titre ? Alors, ils perdent face à Cleveland, évidemment, 4-3 match 7. Mais la série juste avant contre OKC les avait tellement usés, parce qu'OKC est pas loin de les sortir. Hein,
ah bah oui.
Si vous vous souvenez bien.
Oui, et c'est après que KD rejoint Golden State.
C'est Klay Thompson qui les détruit, mais totalement, où il fait un match où tout rentre dès le début. Et OKC, je pense que le trauma de KD.
Klay fait un match à 41 points, match 6.
Et il est incroyable ce match. Vraiment, je pense qu'ils font encore des cauchemars de Klay Thompson.
Parce qu'en plus, ils sont menés 3-1. J'avais oublié ça. Bah, OKC mène 3-1 dans cette série.
C'est presque un choc d'OKC quand même. Hein. Et ils sont normalement, sur le papier, t'es censé sortir l'équipe là.
Oui, parce qu'ils avaient repris l'avantage du terrain. Merci Sacha. Ensuite, on remonte dans le temps. Direction les Rockets. Oh, c'est surprenant, Fred Weiss.
Mais non, mais c'est pas surprenant parce qu'en fait,
bah
c'est
si,
pas.
Si, il y a Hakim.
Il y a Hakim Olajuwon, évidemment, mais il y a pas que lui dans cette équipe. Dans cette équipe de 93-94, il y a Kenny Smith, Otis Thorpe, Vernon Maxwell, Mad Max, Robert Horry, bien sûr, Mario Ely, Sam Cassell, le Chinois.
J'ai l'impression qu'il y a toujours Robert Horry, tu sais, quand tu parles d'une équipe dans les années 90-2000.
Et en fait, ils vont gagner 15 matchs de suite. C'est une équipe qui est fantastique. Il faut se recontextualiser quand même. Hein. C'est l'année où Michael Jordan arrête. On a Larry Bird qui a arrêté, effectivement. On a Magic Johnson, mais comme coach des Lakers. Donc, c'est fini. On cherche un nouveau shérif. Et nouveau shérif, cette année-là, sera Hakeem Olajuwon, MVP de la finale, MVP de la saison, meilleur défenseur de l'année, ce qui était quasiment jamais fait, je crois jamais fait à l'époque. Une saison fantastique avec 58 victoires, 24 défaites. Ils ne seront pas premiers. Ils seront seconds. Derrière, Seattle. Seattle, 63 victoires, 19 défaites. Et rappelez-vous, cette saison, elle est incroyable parce que Seattle perd au premier tour contre Denver.
Avec Mutombo qui est allongé par terre.
Exactement. Et en fait, les Nuggets n'iront pas jusqu'au bout. Mais on aura cette équipe de Houston qui va être fantastique pendant tous ces playoffs, qui va s'imposer contre Portland, contre les Suns. Puis, ils vont jouer contre Utah. Et ensuite, ils vont jouer contre les Knicks. Et contre les Knicks, ça va être l'affrontement fantastique, incroyable, que même des gens comme Sacha devraient se rappeler, ou en tout cas voir des vidéos entre Hakeem the Dream Olajuwon et Patrick Ewing. Ça va se jouer en 7 matchs en plus. Ils vont s'imposer et ça va être une saison fantastique. Ils vont gagner, ils vont faire le back-to-back en plus, ils vont gagner l'année suivante. Mais une équipe incroyable que tous les quarantenaires pourraient nommer quasiment tous les joueurs de cette équipe. Vraiment.
C'est pas mal les Rockets.
Fantastique.
Bon, après, les mauvaises langues disent ils ont gagné juste parce qu'il n'y avait plus Michael Jordan et les Bulls.
Ouais, il y avait d'autres équipes qui ont joué.
Ouais,
c'est eux qui ont gagné.
Je te parle des mauvaises langues uniquement.
Ouais, mais il y a beaucoup de mauvaises langues. Et je pense que Sacha en fait partie.
Non, mais c'est bien dit. Moi, je pensais à une série des Rockets, mais tu sais, celle avec Timac et Yao. Mais c'était pas en début de saison, mais quand ils arrivent à faire cette série d'enchaînement de matchs.
Ouais, c'est cette association qui aura rien donné. Je crois un premier tour de playoff, c'est tout. Hein.
C'est ça. Et cette série de matchs qui servent à rien, du coup.
Et finalement, la série la plus ancienne, même s'il n'y a pas un écart énorme avec les Rockets, Stephen, tu as choisi début des années 90.
Ouais, Portland Trailblazers 90-91, parce que là aussi, avec Fred, c'est notre enfance, hein, Clyde Drexler, Terry Porter, Jerome Kersey, Buck Williams, Kevin Duckworth, Cliff Robinson et Danny Ainge, qui venaient juste d'arriver cette année-là. L'année d'avant, Portland fait finale NBA, où ils perdent contre les Pistons. Ils gagnent. Il démarre la saison, c'est Rick Adelman le coach, ils font 11 victoires de suite, dont 2 après prolongation. Ils ont eu très très chaud aux fesses la série, et en passe d'être interrompu au bout du 3e ou 4e match. Dans cet effectif-là, il y a un garçon qui est champion de France en 1994 avec le CSP Limoges. Frédéric, qui est-il? Un petit meneur de jeu, black avec une moustache.
Je sais pas.
Danny Young. Ça te parle, Danny Young?
Oui, bien sûr.
Et bah, Danny Young fait partie de cet effectif.
Ok, je m'en rappelle plus.
Il y a un autre garçon qui est décédé d'un accident de voiture, qui avait fait le début de saison, qui est Drazen Petrovic. Ensuite, il était tradé du côté des Nets de New Jersey.
C'est pas Stojakovic, hein.
C'est bien Drazen Petrovic. Cette saison-là, Portland gagne 63 matchs. C'est le meilleur bilan de toute la NBA. Et c'est, à l'heure actuelle, le meilleur bilan de l'histoire de la franchise. Ils en avaient gagné 61 la saison d'avant. Ils sont meilleur bilan de la Ligue devant les Bulls. Mais cette saison-là, ils perdent en finale de conférence contre les Lakers de Magic Johnson notamment. Voilà, Portland qui continuera, pas sa legacy, mais à tutoyer les sommets de la NBA, puisque l'année d'après, ça reste un cadre de la Ligue. Ils vont en finale NBA une nouvelle fois. Ils s'inclinent contre les Bulls de Michael Jordan, le fameux duel Michael Jordan contre Clyde Drexler. Bref, c'était une des meilleures équipes de l'histoire de Portland. Une équipe avec Buck Williams, qui est un des meilleurs défenseurs de la Ligue, avec quelques frappadins, Cliff Robinson et Jerome Kersey, qui étaient un peu foufou, Terry Porter. Bref, c'était une belle équipe de basket.
Trois All-Stars, hein, je regarde. Hein, Clyde Drexler, Terry Porter et Kevin Durant.
Exactement. Je conseille à tous les jeunes comme Sacha d'aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps à cette équipe de Portland Trail Blazers, qui était une équipe fantastique. Et cette même saison-là, ils ont démarré par 11 victoires de suite, et sur la fin de saison, ils ont fait une série de 16 victoires de suite.
En plus, ce qui est bien, Sacha, c'est qu'avec NBA 2K, t'as des équipes anciennes, donc tu peux prendre sûrement. Je sais pas s'il y a Portland 90-91,
si,
ça doit
se
trouver.
Ils sont, en fait,
Danny Young.
Drexler, c'est une légende dans le jeu, parce que c'est celui qui te permet de dunker le plus loin.
Ouais.
Il plane dans les airs comme ça.
The Glide.
Ouais. Tiens, petite question, Fred, puisque tu m'as parlé du début de saison des Rockets. Ils sont allés jusqu'à combien? Parce que là, on part de 12-0.
Jusqu'à combien? 58 victoires.
Le début de saison.
15, non?
Ah, ils ont, oui, 15.
15-0.
Ouais, mais je te l'ai dit en préambule.
Non, mais t'écoutes pas. T'écoutes pas.
Mais c'est pour voir si tu avais intégré cette donnée.
Mais oui, mais
je suis quand même surpris, Stephen, que tu n'aies pas parlé des Mavs 2002-2003. 14-0.
Ouais.
pour démarrer, c'était pas mal.
Après, la fin est pas heureuse.
Les Bulls 96-97 avaient démarré aussi en 12-0.
Ouais, facile de prendre les Bulls.
Il y avait Supersonics de Seattle dans les années 80 qui avait fait 12-0. Et sinon, alors c'est vrai qu'il faut remonter un peu. Boston 57-58, 14-0. Et les Washington Capitals en 1948-1949. Voilà pour les séries. Bon, 24-0, on a vu Cleveland. Il y a le test, match 16.
Ils peuvent arriver à Boston. Ils peuvent arriver à 15-0 avant de jouer les Celtics. Et je vais vous poser une petite question qui ne fait pas partie du quiz. Quelle est la particularité de l'effectif des Cleveland Cavaliers?
Il y a deux frères qui jouent ensemble?
C'est pas ça. Wow. C'est la seule équipe, c'est le seul roster en NBA composé uniquement de joueurs du continent américain.
Eh oui.
Ah ouais. Ouais. Ok, j'avais pas fait. Oui.
C'est incroyable, non?
Et tout le monde, surtout quand le coach est Kenny Atkinson, qui est plutôt très ouvert.
Ça n'a rien à voir avec leur bon résultat, mais dans toutes les équipes, il y a un Africain, il y a un continent australien,
européen.
C'était Rubio, mais il n'est plus là, il est blessé.
Eh ouais.
Eh ouais.
Donc il a arrêté
surtout Ricky Rubio. Ça fait.
Non, mais attends, parce que, en fait, tu sais, j'ai regardé sur la liste. Mais
Anderson, il paye Jao,
encore, et je crois qu'il lui paye encore un petit bout et je l'ai envoyé encore dans la liste des salaires de Cleveland. Ouais,
mais après, des fois, tu peux garder ton cercle comme Joachim Noah.
Il a souffert quelques
saisons. Il a commencé très jeune.
C'est pour ça que je l'ai vu, je lui dis, un problème.
Allez, messieurs, place au fameux quiz de Basket Time.
Le sport co permet de côtoyer des gens avec des caractères totalement différents et ce qui est bien, c'est de cet assemblage de caractères forme une équipe.
Voilà, écoute, ça faisait 6 mois que j'avais pas joué au basket. Voilà, c'est comme le vélo, j'ai l'impression. C'est vraiment très facile.
C'est quoi les stats?
10 minutes, j'ai pas joué beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de rotation. 18 points, 3 sur 5 à 3 points, 7 rebonds, 2 interceptions. 2 interceptions, c'est mon career high, 27 d'évaluation. Voilà, c'est propre, c'est propre.
J'ai la chance de travailler dans la plus belle radio de sport qui existe, qui est RMC.
RMC Basket Time.
Belle ligne de stats, hein, on s'en lasse pas, Stephen. Hein.
Ouais. Ce jingle, il est incroyable.
Je me suis fait voler l'étude d'un MVP par Igor Rakosevic. Tu trouves ça normal? Le mec, il vient pour être une légende, il joue à 100% ce bâtard. Il a joué 35 minutes.
Alors, ce mec, il joue toujours à 100%. Mais t'avais joué contre lui avant déjà?
Non,
en fait, c'était un animal. Le mec voulait toujours jouer à fond.
Le mec, il lui disait changement, Igor, parce que c'est pour faire jouer les gens. Il dit non, je reste. Bon,
un gros chien de la casse, Igor Rakosevic.
Messieurs.
Est-ce qu'il y a le quiz est pas prêt? J'ai l'impression
si, le quiz est pas prêt. C'est juste que je répartis les questions du vrai ou faux. Tu vois, j'oriente un petit peu.
Ça répond. Si, si, le quiz n'est pas prêt. Mais...
si, si. C'est juste que je répartis à qui je vais poser la question Alors, ça va aller très vite.
Répartis-moi bien.
Ou pas. Vous allez simplement me dire qui parle. Vous devez écouter qui parle.
Cleveland!
LeBron!
This is for you!
LeBron, évidemment, quand il gagne en 2016.
Bon, ça tenait la route!
Hey, j'ai entendu la voix comme ça!
Par contre, c'est LeBron qui avait fumé un paquet de Gitan Lars.
Ouais, c'est ça!
Il était mort!
Quand, tu veux réécouter? On peut réécouter, hein, LeBron. Bah, il vient de gagner, c'était juste après son interview avec cette victoire et son premier titre avec Cleveland.
Cleveland! This is for you!
Voilà. Je cherchais un mec avec une voix ultra grave.
C'est l'intelligence artificielle qui a mixé LeBron et Jacques Monclar.
Un point pour Sacha. Nous attaquons un vrai ou faux. Vous savez que parfois des joueurs ont des noms un petit peu farfelus. Alors soit c'est à la naissance, des surnoms ou des changements. Évidemment, Ron Artest, Meta World Peace. On peut parler de noms farfelus. Donc je vais vous donner des noms
farfelus
de joueurs ou pas, des noms qui sont un peu farfelus. Vous allez devoir me dire s'ils ont joué à Cleveland ou pas. Sacha, est-ce que monsieur World Be Free a joué à Cleveland? Oui.
Oui.
Absolument, c'est même une légende entre 82 et 87 de son vrai nom, Lloyd Bernard Free.
Après, il a inventé la boxe après. Free.
1m10 de détente.
Ouais.
À l'époque. Ouais, pas mal. Bravo. Fred, est-ce que le joueur appelé Hot Rod Williams a joué à Cleveland? Hot Rod Williams.
Non, il n'y a pas joué.
C'est John Hot Rod Williams.
Absolument, c'est un des meilleurs contreurs de l'histoire de la NBA. Décédé en 2015. 18 000 points en carrière quand même. Hein.
Ah oui.
Tu vois, c'est pas n'importe quoi. Stephen.
T'es content, t'as fait ta répartition. Et
est-ce que le fameux AJ Bromlett.
Qui
Ah, mais moi j'ai joué. Alors par contre, blague à part, j'ai joué contre AJ Bromlett. Il a joué en Espagne pendant longtemps.
AJ Bromlett.
Et ça nous faisait marrer tout le temps parce qu'il jouait avec Moussonko.
Il a un bras droit. Il a un bras droit hypertrophié.
La phrase, j'ai joué contre AJ Bromlett.
Ouais, j'ai joué contre lui. Il a joué en Espagne pendant longtemps.
Alors c'est un M au milieu, hein. Bromlett. Hein.
Ah, Bromlett.
Ouais, mais avec Moussonko, ça nous faisait plutôt rire quand même.
De quoi?
Est-ce qu'il a joué à Cleveland?
Et s'il a joué en Espagne, je me dis que c'est un joueur américain qui a peut-être joué à Cleveland quelques matchs et qui ensuite est parti en Europe, donc je vais te dire oui.
C'est vrai. 8 matchs en 2000.
Mais il a pas été drafté par
pivot de 2m08.
Cleveland, justement.
Mais pourquoi ils vont tous à Cleveland?
Donc, en 99.
Donc c'était une bramblette espagnole. Quand il jouait.
Ça, vous l'avez pas fait avec Soko?
Évidemment qu'on l'a fait, évidemment.
C'était un pivot de 2m08. Il avait joué 8 matchs avec Cleveland. Je suis pas sûr drafté puisqu'il a fait 8 matchs.
Si, il a
et cumulé 4/21 au tir. Aussi drafté par Cleveland, 39e position en 99.
Je viens de te le dire.
Bah bravo.
Je m'y connais en branlette.
C'est bon, Sacha, on t'a récupéré. Cette saison, qui est le meilleur contreur des Cavs?
Mobley. Bernard Feldachin.
Mobley.
Pourquoi?
1,7 contre et 1,3 pour Jared Allen.
Alors j'ai 1,8, mais 1,7. C'était pas
mal. Ah oui, c'était pas mal le match.
T'as compris ce que j'ai dit? Bernard Fellation, je pense que c'était Reggie Barnett.
Il dit cette saison. Bernard, il joue pas à Cleveland cette saison. Ouf. 2 points pour Sacha, 1 point pour Fred, 1 point pour Stifel. On a parlé de série de victoires. Qui est la plus longue?
Warriors, 24.
Pas en début de saison, série de victoires sur une
Golden
saison.
State.
Golden State?
Non. Qui a tout simplement, pas forcément dès le début, mais qui a fait la plus longue série de victoires
Bulls.
Lors d'une saison NBA. Non.
Les Celtics.
Non.
Portland.
Non.
Les Rockets.
Non.
Seattle.
Non.
Les Spurs.
Non.
Wow.
C'est une équipe assez mythique. Hein.
New York.
Non.
Les Lakers.
Lakers. En 71-72. Jerry West, Will Chamberlain, Gail Goodrich. Combien de matchs?
33.
33, c'est bon.
T'as du hasard?
Non, je sais que c'était dans ces eaux-là à peu près.
La franchise de Cleveland a été créée en 1970 lors d'une expansion. Avec quelle autre franchise actuelle?
Miami.
Non.
Toronto.
Non.
Les Vancouver. Pelicans.
Non.
Vancouver.
Non.
Les Hornets.
Non.
Les Nets.
Non. Purée. Une autre Blazers. Franchise actuelle. Les Trailblazers. Sacha, c'est ici.
Ah ouais, les gars.
Du hasard aussi encore.
Non.
Alors.
Beaucoup d'hommes.
J'aurais. J'ai pas voulu accepter les Clippers parce qu'en fait c'était les Buffalo Braves qui étaient devenus les Clippers de San Diego, puis ensuite en 84 les LA Clippers. Et donc voilà, Cleveland et Portland en 1970 ont intégré la ligue. Tiens, puisque Stephen n'a pas voulu parler des Mavs 2002-2003 qui avaient démarré la saison en 12-0, quel Français était dans l'effectif?
Tariq Abdelouad,
c'est bon, mais il n'avait pas joué, était blessé. Beaucoup au genou, il avait commencé seulement en mars, il y avait un petit piège, parce qu'Antoine Rigaudot avait joué cette saison, mais qu'à partir de janvier 2003. Attention, j'ai mis le point Fred, c'est à Stephen. 2 points pour Fred, 2 points pour Stephen, 4 points pour Sacha. C'est le moment de passer au chacun votre tour. Vous devez me citer un joueur.
Je crois avoir compris la règle.
Exactement. Tout simplement un membre de l'équipe des Cavs, championne NBA en 2016. Sacha est devant, donc on va pas commencer par lui. On tourne dans le sens des aiguilles du monde, donc on commence par Stephen.
Kevin Love,
c'est bon. Et c'est pour 3 points, donc c'est la win.
Kyrie
Irving, c'est bon.
LeBron James,
c'est bon.
Chris Bosh. Cleveland, pardon.
Non, wow, trop tard.
C'est pas grave, je suis éliminé, c'est pas grave.
Non? Vous l'éliminez?
Ah oui, je suis éliminé.
On a très peu souvent l'occasion de le faire. On le fait.
Ouais, c'est ça, vous savez
tellement. Non, mais je regarde, moi j'allais, tu vois, je suis généreux.
J'ai bugué.
On est dur avec Steve, c'est terrible.
Bon, Stephen éliminé, on passe à Fred.
Tristan Thompson?
C'est bon.
Timofey Mozgov?
C'est bon.
Tu me l'as volé celui-là. De la Vedova?
Mathieu De la Vedova, c'est bon. Il y en a 15, hein.
Oh bah là, je suis au bout du bout, là, moi.
On a déjà 6.
Channing Frye,
c'est bon. Il y a quelques faciles encore. Hein. Tu t'en veux, Stephen?
Ah oui.
Lui? J.R. Smith?
Oui.
C'est moi.
Sacha.
Iman Shumpert.
C'est bon.
Tu dis dans mon esprit ou quoi?
Oui. Ou alors c'est juste facile, ton esprit?
Varejao.
Et non.
Transféré aux Warriors.
Richard Jefferson.
Ouais.
Attends, qui
alors il en restait un quand même à Sacha, il n'avait pas commencé. Pour la victoire, parce que là il y a égalité.
Ah ouais?
Mais si on t'a volé Richard Jefferson, là le reste c'est dur. Mais tu l'avais Richard Jefferson?
J'aurais pu. Là je l'avais pas comme ça, mais j'aurais pu. Là comme ça je l'avais pas. Non, attends, sur le banc.
Est-ce que Stephen t'en a d'autres?
Il n'y a pas Mario Chalmers ?
Non.
Norris Cole ?
T'es focus hit, hein.
Ouais,
ah ouais, putain, mais qu'est-ce que je fais, moi ? Ah ouais,
que j'ai Norris Cole.
Non, je pas délire, en fait, non.
Joanne Howard, ouais.
Ah ouais.
Ah ouais, Cleveland, pardon. Putain, mais gros, qu'est-ce que je
fais ? Ah, j'ai dit Cleveland. Oui, en plus, non, c'est une spéciale ouais. Cleveland. Non, il n'y a pas quelqu'un.
Il y a
Mo Williams. Après, c'est dur.
Mo Williams.
Dante Jones, James Jones, Jordan McRae, Sacha Cohn. Parce que tu sais, il y avait des Russes qui étaient venus, bah, Mozgov avec, parce que David Blatt était là.
James Jones. Incroyable.
Bon, je veux pas dire qu'il est, mais
quel GM des Suns maintenant.
Ouais. Exactement. Shooter.
Victoire de Sacha.
Let's go.
Qui l'a plutôt mérité. Sacha. Bravo. À très vite, messieurs. Merci. Basket Time revient la semaine prochaine. Ciao, ciao.
RMC Basket Time.